Bonjour et bienvenue, nous sommes le 18 juin 2005. Comme tous les samedis, Radio Éphémère ouvre ses programmes avec les magazines, suppléments week-end, BD et télévision, pas de cinéma cette semaine, puis le cahier du sport jusqu'à 15h. À partir de 15h du mix avec Peyo de la Jungle, 18h30 Clark Nova. Quoi qu'il semblerait que cette émission n'ait pas lieu aujourd'hui. 20h, l'Estetero Experience. 21h30, Liquid Sky Electro. Et 23h, Breakbeat Experience. Et je vous souhaite une très très bonne et très chaude journée à notre écoute, puisqu'on annonce quand même dans les 33 degrés aujourd'hui. Ouais. Enfin l'été, tiens. Enfin l'été. Enfin l'été. Enfin l'été.
Wouh! Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Bon, on espère quand même un petit peu, quoi. Enfin, quoi. Et oui, un supplément week-end à Saint Thomas cette semaine. Il a décidé de profiter du beau temps à la plage avec sa petite amie. Donc même pas de chroniqueuse de secours, hein, s'il vous plaît. C'est comme ça, ça va être dur aujourd'hui. Non, non, je déconne, je vous ai concocté un programme spécial polar, donc vous aurez de quoi suer avec des trucs sombres aujourd'hui. Et du sport, lui, je crois qu'il a d'ailleurs un programme télé qui lui aussi est assez chargé, puisque ben, tout simplement, on a la composition de la grille de rentrée qui s'annonce, plus la grille d'été, tout ça. Bref, il y a de quoi écouter dans Supplément Week-end. Tant mieux, hein, on va en profiter. On est ensemble jusqu'à 13h et pas mal de pelures d'ailleurs, je pense, donc... J'espère que vous allez bien en profiter. L'introduction, c'est Kenny Williams, Saturday, le remix house de Mousty. Eh ouais, je sais, celui qui a massacré déjà. Enfin bon, hop. Eh, pas plus. On est samedi, il fait beau, il fait chaud. Vous écoutez la radio.
Yeah.
Comme dit Kenny Williams dans ce mix. C'est un samedi très chaud. On est tous en t-shirt, non, du sport étant en chemise, tous en short, en sandales. Je tiens à profiter de cette date exceptionnelle qui est le 18 juin pour dédier cette émission à celui qui m'a donné la voix, parce que c'était un DJ très connu d'une des radios qui est mondialement les plus exceptionnelles au monde. D'ailleurs, une chaîne de radio, plusieurs radios même, puisqu'il s'agit de la BBC. Et donc, je dédie cette émission au général de Gaulle, qui a été donc le meilleur DJ à ce jour de cette radio. Et qui m'a donné la voix aussi bien au niveau émission qu'au niveau politique. Excusez-moi, on me passe une dépêche. Madame, monsieur, bonjour. L'émission principale de cette journée, c'est Radio FMR qui doit retirer de ses programmes l'émission Clark Nova, qui habituellement a lieu le samedi à 18h30. Suite à une demande de respect d'équilibre politique à l'antenne par le CSA, les émissions de gauche seront remplacées par des émissions de droite. Première victime de ce recentrage forcé, l'émission produite par le Politburo des guides éclairés de la révolution socialiste esthétique ne sera pas diffusée tout à l'heure à 18h30. Elle sera remplacée par une émission produite par une association culturelle Plutôt marqué à droite, les Clarknovistes crient à l'infamie et ont lancé un appel du 18 juin demandant à ses auditeurs de manifester leur opposition à ce programme alternatif en appelant le standard de Radio FMR à 18h30 aujourd'hui. Donc je rappelle que le numéro de téléphone du standard de Radio FMR est le 05 61 580 580. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous ai promis de la bande dessinée en vrac et en pagaille dans cette émission. On va commencer avec de la mangas. Ben ouais, je vous avais dit que c'était plutôt orienté polar, pas pour le tout premier, puisqu'il s'agit des deux premiers tomes de Gravitation de Maki Murakami, qui vient donc de sortir chez Punch Comics. Soichi, le chanteur, guitariste, clavier, chansonnier du groupe Gravitation. Vous savez, le genre de groupe que l'on crée au lycée, histoire d'avoir du succès auprès des filles. Je joue de la guitare, est-ce que tu veux la gratter, toi aussi? Malheureusement, son groupe est pitoyable et Soichi lui-même est particulièrement nul. Bon, d'abord, il y a le genre. C'est du G-rock, ou même de la G-pop, c'est-à-dire, comment dire? Imaginez Chantal Goya remixé par Danny et compagnie, c'est à peu près ça. Hein. On aime pas, là-bas ils aiment, la plupart des gens ici n'aiment pas, mais bon, c'est particulier, c'est des goûts, des couleurs, et eux ils sont jaunes et nous sommes blancs. Le problème c'est que ces chansons sont d'une mièvrerie absolument accomplie. Et un soir, un inconnu va signifier à ce jeune Soichi d'une manière, je vais dire, absolument sans ménagement. Cet individu, il va le retrouver et il se trouve qu'il s'agit de Eri Mori, un écrivain à succès auprès de la gente féminine avec ses histoires d'amour qui finissent mal en général. Profondément blessé, Soichi va le retrouver et va tisser une liaison amitié-haine qui va devenir une relation d'amour homo. Parce qu'on est dans un genre très particulier, celui de la manga pour filles, shoujo, où l'on raconte des histoires de mecs homosexuels, yaoi. On va y arriver. Ben ouais, parce que les histoires de lesbiennes, ça fait triper les mecs. Et ben l'inverse, c'est vrai. Et c'est justement parce que ça parle de relations entre deux personnes du même genre que le mien, que ça n'est pas exactement mon genre. Bon, non, vous avez pas compris. Bon, tant pis. Voilà, moi je suis plutôt attiré par autre chose. Voilà. Revenons à l'histoire. Non, quand je disais autre chose, c'est que je suis plutôt attiré par les filles plutôt que par les garçons quand je dis que c'est pas du même genre que le mix. Bon, d'accord, ok. Revenons à l'histoire. Soichi va se voir ouvrir les portes, excusez-moi, d'une célébrité immédiate. Je viens de me rendre compte que j'ai écrit une horreur. Mais il tient à l'acquérir par lui-même. Mais il a, à partir de là, deux soucis immédiats. Un, écrire de vraies paroles qui ne soient pas aussi mièvres. Et deux, réussir ses examens. C'est au format poche, aux éditions Punch Comics. Série principalement produite par Maki Murakami, Gravitation, donc les tomes 1 et 2 sont actuellement en vente chez votre libraire favori. On va commencer les polars, enfin plutôt le genre meurtrier si je puis dire, avec Ei Tume. Histoire courte, le premier tome s'appelle Zero, c'est chez Punch Seinen. Seinen ça veut dire que c'est de la manga en fait pour les jeunes adultes masculins de préférence. Et Ei Tume, elle a été découverte en décrochant le prestigieux prix Kodansha, qui est le troisième plus gros éditeur japonais, donc en 1993. C'est un prix qui décerne toute l'année envers les jeunes talents qui proposent spontanément leur production. Et Kei Itoume, elle s'est faite connaître, entre autres, on la connaît déjà en France pour Kologane, qui est donc édité chez Glénat, et elle est aussi designer dans des pas mal de jeux vidéo, mais aussi pour le cinéma, puisqu'elle fait du travail de costumière, s'il vous plaît, ouais, du design comme ça. Mais parmi les œuvres de jeunesse de Kei Itoume, eh ben Punch Comics a exhumé un Zéro dont le scénario n'est pas exceptionnel, mais dont l'ambiance et le graphisme révèlent déjà la dessinatrice. Un one shoot, c'est-à-dire une histoire en un seul album, qui montre déjà une belle maîtrise graphique, qui a été publiée en 1995. L'action se passe dans un lycée où une nouvelle, Yoko Mao, est persécutée par des rumeurs. Comme quoi elle serait balafrée au visage, qu'elle aurait été renvoyée du précédent lycée pour meurtre. Faut dire qu'au Japon, ils sont plutôt tolérants envers la criminalité junéville, puisqu'ils ont tout un système de réinsertion qui est assez particulier, notamment par le déplacement du mineur en question. Et il se trouve que un des élèves de cette école, de ce lycée, Kugimachi, va par hasard l'aborder et découvrir sa sensibilité. Malheureusement, Mao va servir malgré elle de porteuse de flingue pour un yakuza, puisque c'est à la mode là-bas d'utiliser les lycéens pour faire ce genre de transport un peu à risque, et elle va se faire choper par la police, il n'y a pas d'autre terme. Malheureusement, donc, les apparences étant ce qu'elles sont, surtout au Japon, elle se retrouve virée de son lycée une fois de plus. La vengeance de Mao, malheureusement, sera terrible, parce qu'elle a décidé de détruire le lycée qu'il a rejeté. À partir de là, l'histoire bascule dans un slasher qui a de bonnes idées, comme utiliser des robots de ménage comme étant des armes de guerre. Et c'est particulièrement gore et assez étonnant. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse la surprise pour découvrir. Vous êtes prévenus, hein. Bon, l'histoire n'est pas franchement exceptionnelle. C'est plutôt par l'ambiance d'ailleurs qu'on apprécie ce Zéro. Ce premier tome de l'histoire courte, des histoires courtes de Kei Itoume, donc qui est publié chez Punch Seinen. J'ai pas dit donc trois fois là. Ah, peut-être, ouais. Chéro Détective Catastrophe, le deuxième tome vient de sortir, donc toujours chez Punch Comics, de Naoki Serizawa. Tiens, encore une fille, apparemment. Ça fait trois d'un coup, si je me trompe. Shiro, c'est l'histoire d'un lycéen, un abruti complet, un peu shaké aux hormones, si je puis dire, shooté carrément à ses hormones masculines. Il galope après les filles, c'est un dragueur invétéré, c'est un flambeur, et il a décidé d'être détective parce qu'il est tombé amoureux de Reiko, une détective privée, qui a été engagée par ses parents justement pour le retrouver. Le problème, c'est que détective, c'est un métier de planque et qu'on gagne pas grand-chose. Et évidemment, cet abruti a une conception bien spéciale sur la manière de résoudre ses enquêtes. L'esprit de la loose, l'instinct de la burne. Et vu comment il résout les affaires, c'est largement par une burne digne de nanar. Hein, Bernard Tapie, il a une burne comme ça, quoi. Que par réelle déduction. Tout est affaire de hasard et de tentatives déplorables de drague. Autant Détective Conan, qui est le manga qui se vend le mieux au Japon, est un adulte dans un corps d'enfant, autant Shiro de Détective Catastrophe est un ado qui se comporte en gamin. Conan est futé et discret, Shiro est rentre-dedans, générateur de catastrophe et con comme une bite, comme la sienne d'ailleurs. C'est bourré d'allusions sexuelles et aussi fortement imprégné d'une culture japonaise dont il vaut mieux avoir de sérieuses notions avant de se jeter toute zygomatique dehors. Dans une série particulièrement allumeuse, pour donner un peu un ordre d'idée des enquêtes qu'il va résoudre, il va commencer par essayer de résoudre une histoire d'étrangleur en série qui se trouve est un amateur de bondage. Bref, il va se ficeler lui-même histoire de se montrer désirable. C'est complètement délirant, c'est un truc absolument hallucinant. Et je vous laisserai le découvrir. Chez Rodétective Catastrophe, le deuxième tome donc vient de sortir chez Punch Comics et c'est dessiné par Naoki Serizawa. Radio FMR midi 20, c'est Supplément Week-end, extrait de la bande originale The Judgment Night. Hey, I gotta start it. MC's get caught it. Off, you're soft. Dinosaur Jr. will run his score to ruin ya. What in places, hey, this is fat wave this. I portray this. Photographs of the last laugh. It's mine, you're behind. For the mind and for the soul. That's how I roll. Now I hold the mic like my life depended on it. I'm doing your bonnet. My lawn gets watered and I'm apart from whackness. I'm separated. Did you like how I spike the ball? Despite you all, you can come bite a small portion. There's more in the vault. Parts have a malt. I alter your brain patterns. Yeah, it's my fault. I sustain better blends of words, hers, the beat. Damn, beat the speech with you to reach. I'm just me, no simile. Never flow simply, cause it's meant to be. The truth, and nothing but the truth. I tell it to the youth, propelling up the proof in the print. Wouldn't you like to know? Oh, no, you didn't, my flow's never quitting. And that's the truth, the motherfucking truth, my man, my man. I'm not discriminating myself when I'm making my wealth. Pure facts, it's hard for me to endure whack MCs. I lay my tracks with ease. I'm telling you that done is true, propelling through your arteries. Just scar your knees, bowing, praising. Now when I phase in, like Kitty Pryde, citywide. Confirm who kicked the room and hill it, nitty lie. The truth will set you free. When I uproot some seeds, execute them seeds, I do my best to mute them seeds. All it takes is intelligence. I'm great with embellishments. They need a savior, so delicate. Yeah, the truth, the nothing of the truth. I tell it to the youth, I'm it with the proof and the proof. Wouldn't you like to know? Oh, no, you didn't. My flow's never quitting. And that's the truth, the motherfucking truth, my man. The truth, the motherfucking truth. I'm pressure in the tooth. Ask Dr. Roof, bitch. You know my attributes, so don't act cute. It's moot. A closed casket, the most massive. Plus just me, no simile. Never flow simply, cause it was meant to be. Never concluded. Some of your crew with micro laser surgery. I get out of split up like atoms, like the molecule man. Now all of you stand like a congregation on the basement tip trip. Hip hop, not caring, sharing. Tearing Jones, scaring clones, bearing bones. Skeletons, your plasma is like gelatin. And tell a friend who's the benefit. Yeah, my lyrical technique will make your body freak. My lyrical technique will make your body freak. My lyrical technique will make your body seek the meaning. Double teaming, know your motherfucking brain. Yeah, to that whole too. Yeah, bitch, fuck it. Je vais vous parler d'une des séries les plus emblématiques, du polar moderne dans la bande dessinée franco-belge. Il s'agit d'une série qui est scénarisée par n'importe qui, mais par Philippe Thom. Philippe Thom, c'est celui qui a dépoussiéré Spirou au milieu des années 80 et qui vient de céder la main. entre autres pour des accords en partie avec Dupuis, mais il s'est entouré d'un, depuis le quatrième tome donc de cette série qui s'appelle Soda, d'un excellent dessinateur qui s'appelle Bruno Gazzotti. Bruno Gazzotti et Olivier Labalu voulaient néanmoins continuer Soda, seulement Philippe Tom, ça faisait pratiquement 4 ans qu'il n'avait pas fourni de scénario. Alors malheureusement, Soda est une excellente série. Et là, enfin, il est arrivé dans les bacs. Le 12e tome donc de Soda, Code Apocalypse, c'est dans la collection Repérage chez Dupuis. Et ça reste une tuerie, quelque chose d'assez exceptionnel. A priori, ce serait le dernier de la série Soda. Philippe Tom a décidé d'arrêter. Enfin, du moins, ses séries actuelles. Moi, je pense que cela mériterait un très très bon scénariste pour la suite qui puisse nous surprendre avec une série qui est particulièrement tripante, où l'on marie à la fois film d'action, humour, très 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 noir et dessin franco-belge manière grosnée. Une série tellement violente qu'on est encore surpris qu'elle soit toujours pré-publiée dans le Spirou Magazine. Eh oui. Oh ben, qui est donc ce fameux Soda? Eh ben, David Solomon est pasteur à New York et vit chez sa mère. Il a un costume bleu de révérend, Bible dans la bouche et toujours l'air calme, serein. Absolument impassible. Seule fausse note, deux doigts manquants à la main gauche. Bon, en fait, il fait croire qu'il est pasteur, à cause du cœur très fragile de sa mère adorée. Il avait promis à son père qu'il ne serait pas policier comme lui. Il a menti, c'est un policier. Un enquêteur qui la joue parfois sauce Dirty Harry. Soda mène coûte que coûte ses enquêtes dans la rue avec la violence qui y règne, mais joue le pasteur aimable avec sa mère, changeant de tenue dans l'ascenseur. Et en soi même, c'est un générique de série américaine, la scène de l'ascenseur, c'est absolument génial. Une comédie cynique où le faux prêtre donne la parole d'évangile à coups de bastos. Son dernier souci en cours, oh, il a tué un gamin. Un gamin qu'une officine gouvernementale a recruté en tueur. Et lui, eh ben, il se retrouve à devoir prendre sa place. Soda, on pourrait en faire une émission complète, tellement que c'est une très 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 bonne série. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ça ne serait pas le propos. Et je pense qu'il vaudrait mieux le faire, eh ben, justement, avec les auteurs sous la main. Et notamment en parler. Mais ça, j'en laisse à du sport. Qui c'est qui verrait bien pour adapter cette série qui est véritablement tripante? Je te préviens du sport. Je les ai tous à partir du tome 4. Non, on me les a piqués. Ah ! Et tu vas adorer. Franchement, tu vas adorer. J'en doute absolument pas. Ah oui, oui, ça. Bon, tu peux le dire. Hein. En tout cas, c'est une très très bonne série. Tu ne tueras point. Thanatos, Code Meurtre et tout ça. Ça reste quand même vraiment des polars assez exceptionnels. Et là, eh ben, l'univers du commissariat du 3e precinct, du 13e precinct va littéralement être chamboulé, justement, parce qu'il va arriver par Soda. Je ne vais pas en dire plus. J'en suis fan, absolument fan de Soda. Et on l'attendait depuis des années, et voilà. On va continuer avec tout à fait autre chose, mais toujours dans le domaine du polar. On est cette fois-ci en Europe. Éric Aumont au scénario et Boris Beuzelin au dessin. Stabat Mater, c'est un one-shot dans la collection Sans Froid chez Delcourt. Et c'est l'histoire d'un photographe. Ah, être photographe pour la police doit être un métier qui doit vous dégoûter au bout d'un moment. Immortaliser le moindre angle d'une scène de crime, vous devriez en voir des choses glauques dans la vie, ça va pas être super agréable à vivre tous les jours. Sauf pour le héros de Stabat Mater. À lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est un handicapé du sentiment. Il a beau essayer de stimuler ça, jamais il n'arrive à éprouver quoi que ce soit. Les pipes chaudes, les quartiers bornes ne lui sont plus d'aucun secours. Et dans une salle miteuse, il va assister à un spectacle qui va bouleverser sa vie. Il va voir la femme idéale, immobile, nue, mais absolument parfaite. Depuis, eh ben, il n'aura que de cesse de découvrir son secret. Il abandonnera presque son boulot pour ça. Et savoir qui est cette femme absolument superbe, qui elle est, quel est son secret, et pourquoi elle ne dit mot pendant ses spectacles. Éric Aumont et Boris Beuzelin, Stabat Mater, c'est dans la collection Sans Froid chez Delcourt. C'est une merveille de polar. assez bluffante et je sais que j'utilise souvent, mais en tout cas, moi, je me suis pris une claque en regardant cette série et j'espère que vous aussi, vous allez vous en prendre une. On va passer toujours dans le polar, mais un autre cadre qui est celui, je veux dire, du polar financier avec IRS. IRS, eh ben, c'est The Internal Revenue Service. C'est l'équivalent du fisc américain, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, il y a un fisc aux États-Unis? Je croyais qu'il n'y avait pas d'impôts, que les riches étaient tranquilles et tout ça. Bon, on y va presque. Stephen Desberg est au scénario, c'est un Belge d'origine américaine et il a son passeport américain et donc il paie ses impôts aux États-Unis. Rankin, lui, est un dessinateur belge que l'on connaît déjà à travers plusieurs séries. Il a un trait très réaliste, justement, ça ressemble beaucoup, je veux dire, au dessin du 13 ou du Largo Winch, si vous connaissez. Mais le 7e tome de IRS, Corporate American, vous fait découvrir vraiment autre chose au niveau financier aux États-Unis. C'est dans la collection 3e vague chez le Lombard. Et donc, on découvre dans cette série ce qu'est le IRS sur une manière, je veux dire, quand même très romancée, hein. Mais c'est assez surprenant. Tout simplement parce que le fisc américain, ils sont plutôt cool sur le taux de prélèvement sur votre salaire ou sur vos plus-values en bourse. Plutôt dans le genre laissez-faire. Mais en cas de fraude un peu trop caractérisée, eh ben, ils sortent l'arme lourde. En fait, ils ont carrément un service d'enquêteurs aux méthodes qui sont proches des services secrets. C'est assez étonnant les moyens qu'ils ont. Et on se dit, non mais c'est vraiment trop gros ce qui se passe dans cette BD, etc. Non, pas du tout. Ils agissent vraiment comme ça. C'est-à-dire, ils se prennent vraiment pour des James Bond. En fait, les agents se paient sur la bête. C'est-à-dire, quand ils mettent en liquidation quelqu'un, ils touchent un pourcentage. Donc forcément, ça donne envie d'avoir les crocs jusque-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Larry Baymax est un de ces agents qui mènent la grande vie parce que la loi les autorise à se payer sur la bête. Mais en plus, il est l'héritier d'un empire financier, un studio de cinéma. Bon, à la dérive, soit. Mais sérieusement convoité par Johnny Madsen, un mania du pétrole et financier du parti républicain. Bah tiens. Bref, les deux hommes sont faits pour se détester. Et quand les deux sont à leur disposition autant de pouvoir, inutile de dire que ça y va particulièrement sec. C'est une histoire d'action, espionnage, concept plutôt original et étonnant. On accroche bien ou on n'accroche pas à ce mélange, je vais dire, de James Bondry et d'enquête financière. Mais en tout cas, c'est une série qui est très bien faite, très bien ficelée et bien menée. Et surtout, on comprend pourquoi la plupart des paradis financiers se situent sous les tropiques. Ouais, du sport, ça devrait peut-être te plaire. Le dessin devrait te rebuter, mais je pense que ça pourrait te plaire. Le dessin, il s'agit de deux frères. Ils s'appellent les frères Flock. Vous les connaissez peut-être indirectement, puisque, entre autres, ils ont fait des publicités pour une marque de whisky, que je n'ai pas le droit de citer. Ils ont un trait belge qui est très particulier. C'est vraiment la ligne claire pure et dure, c'est-à-dire des traits qui sont très simplifiés et je vais dire assez voilà, c'est des aplats. Le scénariste, c'est un certain Jean-François Rivière. Vas-y, du.
Ouais, non, mais quand tu parles de ligne claire, ouais, c'est vrai que c'est la ligne claire, mais c'est pas vraiment la même ligne claire que la filière belge.
Pourtant si, mais c'est une ligne claire qui est faite au pinceau, qui est assez épais. Après, il y a toute une classe dans le dessin qui est assez particulière.
Ça fait penser aux Américains, on va dire, aux Américains des années 70. Il y a un petit peu de pop art dedans, hein, qui se
à fond.
Ligne claire plus pop art. Voilà, ça fait vraiment penser à ça, parce que bon, il y a un mélange des couleurs qui est justement pas le même mélange de couleurs qu'on a dans la ligne claire belge. Hergé en tête, puis après bah, tous ceux de Spirou hein, en majorité. Quoi.
Et bien justement, tu vas peut-être comprendre un peu mieux pourquoi, puisque figurez-vous que Jean-François Rivière et Flock sont les auteurs de Rendez-vous à Seven Oaks, Blitz, Underground, une trilogie anglaise. C'est-à-dire à chaque fois ce sont des romans qui se passent dans l'Angleterre du XXe siècle, mais vous savez l'Angleterre un peu classe, l'Angleterre des années 30 aux années 60, ou celle que l'on voit le dimanche soir sur France 3, on le voit plus le dimanche soir, maintenant c'est le dimanche midi, excusez-moi. C'est-à-dire l'Angleterre où on s'assassine tout en buvant le thé, très très classe, très stylé je vais dire. Et ils ont décidé de boucler la boucle en rédigeant un pseudo-documentaire de la BBC en bande dessinée sur la soi-disant écrivaine anglaise Olivia Sturges qui aurait écrit les romans dont sont adaptées ces bandes dessinées. Et en lisant ce livre, c'est tout de suite donc le milieu littéraire anglais des romans policiers qui vous saute à la figure. C'est assez étonnant. Et j'ai encore utilisé assez étonnant. Ouais, faudrait que j'arrête. Faudrait que je mette un patch un jour. Là-dessus, c'est toute cette ambiance anglaise feutrée, des bibliothèques qui vous saute à la figure. Cela n'a rien d'un hasard. Jean-François Rivière a écrit plusieurs analyses sur Agatha Christie. Il est même très proche de la famille par ce travail. Il a aussi réalisé de nombreux documentaires télévisés, dont par exemple sur Barbara Cartland, sur la plupart des auteurs policiers. Je crois même qu'il en a fait sur toutes les grandes, sur toutes les grand-mères et toutes les femmes qui écrivent justement des romans policiers, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis ou au Canada. Ça saura de qui je parle, hein. Évidemment, c'est trop facile. Les auteurs on profite encore joie de connaître très bien le milieu, notamment en faisant jouer dans leur bande dessinée entre guillemets Patrick Macney, Diana Rigg, les acteurs originaux de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. On retrouve Somerset Maugham qui était un grand critique littéraire anglais et aussi romancier. On retrouve Charlotte Rampling et bien d'autres surprises. Pour les amateurs de littérature, c'est carrément du bonheur en barre, servi par un trailing clair qui est assez classique, mais surtout qui est très très classe. C'est peut-être le bouquin idéal pour faire apprécier la bande dessinée à votre papa s'il aime lire les romans policiers d'Agatha Christie, puisque la vie d'Olivia Sturges est comme par hasard pas si éloignée de la maîtresse du crime, mais justement suffisamment différente, ainsi que l'histoire en fait de la romance avec Albany qui serait donc le critique littéraire dont Olivia serait amoureuse. Olivia Sturges, 1914-2004, c'est vraiment un siècle de littérature anglaise que l'on vous déroule sous les yeux et du milieu des arts anglais en général. Jean-François Rivière au scénario, Flock au dessin, c'est chez Dargaud, c'est un beau bouquin hein, quand même, assez étonnant, et à lire, c'est du bonheur. Je vais terminer par un dessinateur, auteur complet, il s'appelle Philippe Lax, Christian Lax, voilà. L'aigle sans orteil, dans la collection Air Libre chez Dupuis. Ça se passe pas loin du col du Tourmalet. Vous savez, le col du Tourmalet, c'est comment s'est construit le pic du Midi en 1906, et là où s'est faite la légende du Tour de France. Histoire d'Amédée, l'aigle sans orteil, qui s'est illustré pendant la décennie 1910. Non, je vais pas en dire plus. Je vais juste dire que Christian Lax est l'auteur d'Azraïen avec Franck Giroud, une certaine histoire de la guerre d'Algérie qui a été unanimement saluée. Et la suite, c'est du sport qui va la chroniquer la semaine prochaine, puisqu'on sera pas là pendant le Tour de France. Donc ça, tu le lis, je te donne les éléments, tu m'appelles ou je t'envoie par mail si tu veux les éléments sur Philippe Lax, mais ça va te plaire, ça se passe au moment où un journal qui s'appelait L'Auto, avant de s'appeler L'Équipe, voilà, ça tu sais mieux le dire que moi.
C'est l'histoire.
Voilà, et aussi ça vous explique pourquoi quand vous allez au Pic du Midi, quand vous y allez, puisque maintenant on peut y accéder relativement librement, vous montez la longue montée, vous arrivez face à l'émetteur de TDF, où il y a le télescope de 2 mètres. Sur la droite, vous avez le bâtiment historique du Pic du Midi, là où il y a la fameuse coupole dont on raconte la construction. Vous longez ce bâtiment sur la gauche, et sur la droite, sur votre droite immédiatement, vous trouvez le télescope amateur. Sachez que c'est un télescope qui fait 50 cm, je crois, de diamètre au miroir. Et tous les ans, il est squatté par France Télévisions. Pourquoi ? Parce qu'on a une vue absolument imprenable sur le Tourmalet. J'ai eu l'honneur d'y bosser pendant un mois au Pic du Midi et justement pendant cette pendant une semaine au Pic du Midi, justement pendant cette époque-là. Quand je vous dis qu'on a une vue assez incroyable, c'est j'ai eu l'honneur de regarder à l'oculaire pendant la montée et c'est vrai que c'est impressionnant. Ça vaut toutes les vues d'hélicoptère. Donc voilà, je vais pas en dire plus. C'est à du sport d'en dire plus la semaine prochaine. Et ça, c'est un cadeau pour mon papa adoré parce qu'il adore les James Bond. Il s'agit de l'album remix Diamonds Are Forever de Shirley Bassey, la grande voix, la grande diva de James Bond, Goldfinger remixé par les Propeller Heads, et c'est une pure tuerie. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est absolument génial. Et après, ce sera du sport dans Supplément Weekend sur Radio FMR. Il est 12h40.
les 5 dernières minutes, les aventures du commissaire du sport.
Alors, commissaire Cabrol, j'ai failli en parler, figure-toi, hein, parce que ça passe encore. Ça passe encore, et dans la version couleur en plus, hein, c'est-à-dire pas les premières avec Raymond Souplex.
C'est un peu dommage,
les autres, mais qui sont pas mal aussi. Hein, qui sont quand même pas mal aussi, mais enfin bon, il y avait quand même un petit peu plus important,
c'était,
à mon avis.
C'était une série d'ailleurs assez étonnante, parce qu'il fallait oser quand même du direct et se dire, bah, puisqu'on est en direct et qu'on fait tout en direct, on va faire venir des téléspectateurs, ils vont le regarder et en direct, ils vont désigner leur coupable dans le bureau du commissaire. Moi, j'ai vu ça, ça avait été rediffusé par la 5 en 91, je crois.
Ouais. Et ça, c'était la première mouture, en fait. Hein. C'était
voilà.
La toute première mouture où on invitait des téléspectateurs et puis on leur demandait à la fin,
Bon, désigne ton coupable.
Quel est le coupable et pourquoi est-ce qu'il est coupable, quels sont les indices qui vous font penser, et c'est l'inspecteur Raymond Souplex, hein, qui est interprété par Raymond Souplex, qui pose les questions aux téléspectateurs.
Et c'était très fort. Il y a eu une tentative qui a été faite par France 3, si je me souviens bien, en 97-98. Ils ont fait 2-3 émissions, ça n'a pas marché, pas de succès d'audience, bien dommage.
Non, mais bon, il faut aussi savoir que pas mal d'émissions à la télé française bien étaient faites dans les conditions du direct. Hein, ça n'existait pas, les émissions
comme n'importe
enregistrées.
Où,
hein.
Comme n'importe où, le magnétoscope n'est arrivé que fin des années 50.
Voilà,
hein,
voilà. Et bon, si déjà, techniquement, et bon, on peut dire que c'était une bonne prouesse pour l'époque, faut aussi se rappeler qu'un petit peu avant, il y avait eu la caméra Explore le Temps, qui était encore plus une folie, mais enfin une idée de fou furieux, mais qui fonctionnait relativement bien, hein, parce que bon, bah, il s'agissait carrément de transposer des personnes du monde contemporain à une époque donnée, passer avec des acteurs en costume, hein, qui interprétaient un rôle bien précis, mais tout ça en direct, dans les conditions de direct. Donc pas mal.
C'était très fort, hein. C'était très très fort.
Voilà, donc je feuillette toujours le Libé juste avant, pendant que tu causes de BD, hein, c'est pour ça que de temps en temps t'es là et tu me dis ouais, tu pourrais quand même. Je pourrais quand même écouter ce que je dis, mais là je suis quand même tombé sur un truc pas mal, hein, qui concerne la télé, le monde de la télé, hein. Ça concerne Jean-Luc Delarue, qui a été condamné.
Bonsoir monsieur Muslim, bonsoir.
Qui a été condamné à 2000 € d'amende pour infraction au code du travail.
Mon
pourquoi
Dieu, 2 minutes de travail,
pourquoi
ça lui coûte
pourquoi
cher.
Ouais, parce que Delarue a fait marner 5 de ses salariés dans des locaux en sous-sol insuffisamment ventilés, sans éclairage naturel et dépourvus de baies transparentes à la hauteur des yeux. Alors, je suis sûr qu'il y a pas mal de travailleurs dans ce pays, de travailleuses, salut Arlette, qui doivent rigoler, quoi, en pensant, en lisant cette conclusion de tribunal, parce que bon, au niveau des conditions de travail, il y a du boulot encore. Alors, à ce niveau-là, voilà, c'est un petit aparté.
Je crois que ça tient la convention générale de journalistes, il y a un truc comme ça. Enfin, théoriquement, de salubrité sur le travail, pupitrage, etc. Enfin.
On va parler avec une semaine de retard, mais enfin bon, bah, c'est quand même parce que c'est cette semaine que ça démarre. Alors, c'est parce que la fête gay, bi, trans et un quatrième LGBTH, je crois. Hein, c'est ça.
Attends,
hein, le truc. Hein,
lesbienne,
gay, trans et
Z.
Non, je sais. Bon, bon, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Vous étiez nombreux, c'est pas mal. C'est cette semaine que démarre la série lesbienne et pas homo. Les homos, on avait déjà fait avec Queer as Folk, version anglaise, excellente version anglaise, vraiment très très bien traitée. Et la version américaine, un petit peu plus rentre dedans, un peu plus américaine. Hein, voilà.
Elle est catastrophique au niveau audience d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas si bien marché que ça aux États-Unis. Elle a été déprogrammée assez vite, hein, de ce que j'ai vu. Il y a eu du glissement d'audience, comme on dit.
Ouais, mais enfin, bon, il faut aussi savoir que de temps en temps, les chaînes qui diffusent ces programmes essayent de faire du rentre-dedans, essayent de concurrencer. Il y a une concurrence énorme aux États-Unis entre les chaînes. Hein, ça se joue à coup de dizaines, de centaines de millions de dollars pour pouvoir caser une chaîne au bon créneau, en concurrence avec telle autre chaîne. Sur ABC, sur NBC, sur machin, sans parler des chaînes du câble. Bref, c'est le gros bordel. Et dans cette bataille, c'est le pari quand même vachement risqué de Showtime. Showtime, c'est la chaîne, on parle souvent de HBO, hein, on dit tout le temps HBO,
qui ont sorti, this is not TV, this is HBO.
Très très bonne série, d'excellentes séries, c'est vrai, d'excellentes mini-séries également, mais il faut pas oublier Showtime qui nous avait déjà valu Résurrection Boulevard, qu'on avait vu, qui est actuellement rediffusé sur Série Club. avec des épisodes à la rafale. Je crois cette semaine, il y en a carrément 5 à la suite, une soirée sur Série Club. Bref, un petit peu dur quand même. Mais par contre, demain soir, c'est la grosse nouveauté, c'est inédit, hein, parce que la série date de 2004, a été diffusée début 2004, c'est-à-dire l'année dernière aux États-Unis par cette chaîne Showtime. 14 épisodes de The L Word. Qui veut dire le mot L, comme lesbienne. Alors, faut savoir qu'à la télé, quand même, parler d'lesbienne et d'homosexualité en général, c'est pas trop évident. Dans les séries, hein, 100 ans, il a fallu attendre le début des années 90, carrément. Hein, pour qu'il y ait un personnage récurrent dans une série qui soit clairement identifié comme étant gay, homo ou lesbienne. C'était dans la série L.A. Law, la loi de Los Angeles. Et encore, hein, c'était déjà parce qu'il y avait une chute d'audience de cette série qu'il fallait un petit peu renouveler, qu'il fallait un petit peu booster. Donc bon, bah, il fallait inventer quelques petites situations assez chocs. Il y a eu après le coming out très célèbre, hein, qui a révélé Ellen, qui avait son propre show, sa propre sitcom Ellen DeGeneres, son show s'appelle Ellen tout simplement, et qui avait déclaré à la une de je sais plus quel hebdomadaire, Time ou un truc comme ça, enfin bon, l'hebdomadaire, le gros truc, Hello, I'm gay, enfin un truc comme ça, hein, pour dire ouais, vraiment, je suis gay, il y a pas de problème. Il a fallu donc attendre pas mal de temps. Depuis, ben, on a quand même eu beaucoup de percées, hein, sans trop de jeu de mots, avec Sex in the City et d'autres petites choses, dont justement Queer as Folk, hein, pour parler du cul, et du monde homo et du monde lesbien, enfin, bon, de tous ces tabous, hein, qu'on n'osait pas encore transgresser à la télé, alors que le cinéma les avait transgressés depuis des décennies, on va dire. Hein. The Hell World, donc, avec une particularité, bah, c'est comme ça parle lesbienne, il y a beaucoup de gonzesses, il y a énormément de gonzesses. Dans Libé également, vous avez carrément presque une page et demie, hein, sur la présentation de cette série, avec les photos des 8 nanas. Elles sont 8, donc.
C'est du bonheur pour les garçons. Hein. En plus, elles sont jolies.
Il y a des garçons. Il y a un garçon qui est assez connu, c'est Eric Mabius.
Pour le téléspectateur, c'est un bonheur. Elles sont mignonnes.
Ouais, parce que bon, c'est chaud quand même. Hein. Il faut dire que ça se passe pas tellement dans les bas-fonds de Los Angeles. Hein. Pas trop, quoi, tu vois. Avec quand même une de mes favorites depuis beaucoup de temps, Pam Grier. Mais enfin là, bon, on va dire qu'elle est un peu épaissie. Hein. Il faut les aimer rondelettes maintenant, quoi, quand même. Elle a pris des formes, on va dire, Pam Grier.
Et c'est un tiers quand même du public américain.
Qui joue le rôle de Kit, qui est la demi-sœur de Beth. Beth, c'est qui? Eh ben, c'est l'autre actrice la plus connue, on va dire, hein, qui a déjà eu son nom en haut de l'affiche. Jennifer Beals, Flashdance. On va pas vous le faire parce que bon, on est très mauvais, très mauvais.
On chante vraiment faux, ouais, c'est pas la peine.
Très mauvais. Il y a Mia Kirchner aussi qu'on connaît un petit peu, qui joue le rôle de Jenny. Laurel Holloman qui joue le rôle de Tina, qui est la copine de Beth. Il y a Leisha Haley qui joue le rôle d'Alice, une journaliste cool qui est un petit peu bisexuelle et qui dans la vraie vie est la seule lesbienne du casting déclarée.
Déclarée.
Hein. Il y a Karina Lombard qui joue le rôle de Marina. Il y a Erin Daniels qui joue le rôle de Dana, une joueuse de tennis pro. Lesbienne bien sûr, et Catherine Munning qui joue le rôle de Shane, qui a le rôle de croqueuse de femme, on va dire, hein. elle tire sur tout ce qui bouge un petit peu dans cet esprit là
ça fait bizarre d'utiliser cette expression pour les femmes, hein.
D'habitude
c'est plutôt pour les mecs.
Pas. Alors quand on parle de joueuse de tennis pro, il faut savoir que concernant cette série, eh bien celle qui est l'égérie depuis des décennies maintenant de la cause lesbienne, c'est l'ex-joueuse de tennis Martina Navratilova, qui a déclaré que cette série était mauvaise, qu'elle ne conseillerait pas à sa maman de la regarder. Enfin, voilà, bon, c'est un petit peu con, parce que c'est une série qui a vachement bien marché. Hein. Il y avait sur une chaîne câblée, hein, c'est-à-dire que l'audience n'est pas maximum. Il y avait tout le temps.
Et puis surtout, il y a une chose à savoir vis-à-vis des États-Unis, c'est que les réseaux câblés appartiennent en général à des grands groupes comme Time Warner. Et d'autres, et donc en général ces grands groupes essaient d'éviter de prendre les chaînes des groupes concurrents, donc en fait c'est pour ça que les audiences des chaînes câblées sont très morcelées.
Ouais, mais enfin bon, ça faisait quand même du 1 million à 10h du soir, ce qui fait quand même plutôt pas mal, c'est
un joli
pas
score
mal, on va
et
dire,
en plus 22h c'est l'heure des talk shows du soir sur trois networks, ouais. Hein, c'est...
Alors ça passe sur Canal+ à partir de demain soir 20h55. Il y a 14 épisodes, hein, durant cette première saison, et on pourra également regarder cette série sur Pink TV. Alors là, ça semble un petit peu plus logique. Le vendredi et le samedi, sachant que le vendredi, ce sera diffusé en version originale sous-titrée sur Pink TV.
J'ai cru que t'allais dire en double cryptage.
Non, pas du tout. de la série, voilà, ça c'est de Hellworld, donc c'est demain soir à 20h55 sur Canal+. Dans un registre complètement différent, mais ça parle quand même que de gonzesses, mais là les mecs jouent un rôle un petit peu plus important, quoique on pourrait s'en passer. C'est une série belge qui vous est proposé à partir de jeudi prochain par M6, à partir de jeudi prochain, deux épisodes, donc de 20h50 à 22h40, ça s'appelle Matryoshka, qui veut dire poupée en russe. Poupée,
oui, c'est les Matryoshka, c'est les poupées gigognes.
En voilà, vrai. C'est ça. Et c'est sous-titré le trafic de la honte. Série belge, donc, qui prend comme pitch de départ, eh bien, des jeunes filles venues des pays de l'Est à qui on fait miroiter un concours de beauté dans un pays occidental. Arrivées dans ce pays, eh bien, on confisque leur passeport, tout leur truc, et puis on commence à les mettre sur le trottoir. Et ça se passe plutôt bien, plutôt mal. Ben, ça, c'est à vous de voir. Donc, à partir de jeudi soir, 20h50 jusqu'à 22h40. Alors, il faut signaler que ces deux épisodes sont les deux premiers, donc, de la série qui en compte 10. Mais il faut savoir que, bon, vu le caractère un petit peu choquant, on va dire, de certaines scènes, la suite de la série, c'est-à-dire les 8 autres épisodes, sont diffusés un peu plus tard le soir, à partir de 22h30, le vendredi. Donc, vous avez deux épisodes le jeudi, à partir de 20h50, et le lendemain, le troisième épisode, à partir de 22h30.
Et si vous voulez en savoir plus sur le trafic, sachez que cette année, MTV a pris comme cause nationale sur ses antennes de toutes ses filiales, hein, puisqu'il y a plus de 100 MTV dans le monde, justement le trafic d'êtres humains, le trafic sexuel, et notamment donc d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest via l'association Exit, et qu'ils ont fait d'excellents documentaires courts là-dessus. C'est des témoignages qui sont assez retournants quand même, assez osés de la part d'une chaîne musicale internationale de programmer ça. Au moins ils le font.
Ouais, bon, mais ce qui est un petit peu peut-être indécent, c'est de diffuser en première partie de soirée, ce qui concerne les deux premiers épisodes, parce que il faut savoir que c'est dans le cadre d'une soirée complète proposée par M6, et concernant bien sûr la prostitution, car juste après ces deux épisodes, qu'est-ce qu'on a? Un espèce de zone interdite, car c'est une émission spéciale prostitution, animée par monsieur Bernard de la Villardière. Et on est vachement content. Ouais, là, ça casse tout, là. Tu vas d'un seul coup, tu prends le coup de massue derrière la gueule.
Et là, tu dis M6, racoleur?
Non!
Penses-tu?
Allez, Canal Jimmy vous propose, du polar, t'en voulais, t'en as, et ouais. Du tout neuf, du tout inédit. Dit Meurtre à l'anglaise, ça s'appelle, et il y a 20 épisodes qui ont été tournés de cette série anglaise qui en fait est tirée des personnages d'un livre de Elizabeth George, qui est une romancière anglaise, t'en parlais avant, des romancières de polar, et c'est vrai qu'il y en a une autre tapée, il y en a des bonnes, il y en a des pas mauvaise. Elizabeth George, d'après ma femme,
qui bosse pas mal pour la télévision anglaise en plus.
D'après ma femme, Elizabeth George, elle a lu ses bouquins, c'est pas trop mal. Par contre, quand elle a vu la bande-annonce de Meurtre à l'anglaise, elle a dit les personnages ne correspondent pas du tout à ce qui est marqué dans le bouquin. Il faut savoir que, enfin, c'est basé, c'est bien sûr toujours un Houdinite traditionnel, mais avec toujours les méandres scénaristiques propres aux Anglais. Alors là, ils sont trop forts. T'as vu l'épisode d'avant-hier de Autopsie, là c'était vraiment trop fort, hein, avec les deux nanas qui retrouvent dans le froid, dans le congelé, mais là vraiment trop fort, hein, avec en plus l'apparition de Anthony Ed Giles, rappelle-toi Giles dans Buffy de Vampire Slayer,
oh, oui.
Et qui joue le rôle d'un tonton patronette qui aime bien les jeunes filles de 12 ans. C'est bien Giles, hein, qui Anthony Ed, cet acteur est quand même pas mal, parce que après avoir fait du Giles, après avoir voulu avoir une série spin-off dérivée de Buffy, qui n'a pas du tout marché, qui s'est cassé la gueule lamentablement, ils ont même pas tourné, on le voit apparaître dans des rôles de méchants. On l'a vu dans ME5, où il joue également le rôle d'un terroriste qui se pend dans les chiottes. Le rôle du tonton, hein, qui aime les petites filles de 10 ans et moins, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'était dans Autopsie, hein, c'est tous les jeudis sur Canal Jimmy. Là, c'est également sur Jimmy, mais le lundi, hein, il y a plus de Prime Suspect, hein, Hélène Mirren, il y en a plus, hein, il y en a pas tant que ça, hein, c'est vrai, mais là, il y en a 20 épisodes, donc On va pouvoir passer l'été tranquille quand même, hein. C'est proposé en plus. En version masterisée, donc on va pouvoir quand même mettre la VO quand ça marche, bien entendu. Alors c'est interprété, je disais au départ, par Nathaniel Park et Sharon Small, ce sont les deux acteurs, qui interprètent en fait un binôme d'inspecteurs, un couple d'inspecteurs, mais qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Autant le personnage masculin de Nathaniel Parker est un aristo un petit peu à la Brett Sinclair, qui a vraiment néné avec une cuillère dans la bouche, n'a aucun problème. Jamais. Autant Sharon Small, elle est mal fagotée, elle est moche, elle est un petit peu obtuse, on va dire, au niveau des raisonnements. Mais enfin, bon, bah, elle a quand même sa place dans ce duo. Et ça joue également un petit peu là-dessus, hein, sur cette opposition un petit peu d'image, cette espèce d'antonymie. Et c'est assez intéressant quand même. Et de toute façon, bon, bah, on peut leur faire confiance. C'est des modules d'1h30, hein, c'est-à-dire le module lent. Hein, téléfilm anglais généralement ils trouvent assez d'astuces, hein, pour nous faire passer 1h30 sans qu'on se fasse chier. C'est sur Canal Jimmy donc à partir de lundi prochain 20h45. On va carrément faire les paléontologues. Alors je te ressors une série qui date de 1971 et qui est en fait une série qui est dérivée d'un film. Film lui-même dérivé d'une pièce à succès à Broadway. Il s'agit du film ultraissime connu, hein, qui a été d'ailleurs, on a fait un remake il n'y a pas longtemps avec Chow Yun-fat. Ça s'appelle Anna et le roi. Et le roi, rappelez-vous.
Oula, le nombre de versions qu'il y a eu de ce truc.
Le divin chauve, il n'y a qu'une version, celle avec le divin chauve. Yul, le grand Yul Brynner, bien entendu. Yul Brynner qui a...
Je crois que ça a été remonté en téléfilm d'ailleurs, en plusieurs parties.
Justement, voilà, ouais. je vais t'en parler. Yul Brynner qui a créé le rôle à Broadway. C'est lui qui l'a interprété,
ouais.
Le rôle du roi au départ à Broadway. Il a reçu un Tony Award, c'est-à-dire un César du théâtre pour ce rôle. Il l'a joué plus de 300 fois. Ensuite, il l'a interprété au cinéma avec Deborah Kerr, hein, qui jouait le rôle de Anna, et un petit peu plus tard, on lui a proposé de faire la petite série Anna et le roi. 13 épisodes de 25 minutes ont été tournés, avec donc Yul Brynner qui joue dans une série télé. C'est pas mal ça, hein, franchement.
Et en plus, elle est assez marrante comme série. C'est assez rigolo. Ils sont arrivés à étirer justement le concept et sans que ça se défile. C'est-à-dire ni trop peu ni trop, donc il y a vraiment c'est du bonheur.
Ouais.
Moi, franchement, j'avais un souvenir assez ému de cette série, je m'étais bien
éclaté. Deborah Kerr est remplacée par Samantha Eggar, hein, dans la série,
mais qui est très mignonne.
Et ouais. Pas de problème. Et on repère, alors là c'est pour les connaisseurs quand même, c'est les gens qui ont l'habitude de regarder les séries ou qui connaissent un petit peu le cinéma. Il y a Kay Luck dedans. Kay Luck, c'est qui? C'est le maître de Kwai Chang Kane dans Kung Fu. C'est lui son maître.
Eh oui.
Voilà, Kay Luck. Et il y a également Pat Morita, mais là il était très jeune. Pat Morita, c'est Karate Kid, bien sûr. Hein, ça nous rajeunit pas. Tout ça, c'est sur TMC. Alors c'est sur TMC, c'est à partir de lundi prochain, tous les jours de la semaine, à 12h20, Anna et le roi avec le grand Yul. Il y a également dans les séries Shannen Doherty, ça y est, c'est bien cet après-midi qu'elle débarque dans North Shore Hotel du Pacifique à partir de 16h10, c'est sur TF1. Il y a également un Colombo encore ce soir, hein, sur TV Braise à 20h50 de 76, réalisé par un certain Ted Post. Ted Post, à qui on doit un film avec Clint. J'ai pas trouvé de film avec Clint, alors bon, j'ai obligé de, par une voix détournée, de parler de Clint.
Ça tombe bien parce que j'ai pas eu le temps de faire le jingle. Clint de la semaine.
Pendez-les au cours, rappelle-toi de ce western avec Clint. Ouais. Au début, il se fait dépendre et tout, et puis ensuite il va se venger. Quoi.
Non, il se fait engager comme marshal et ça a tourné à la vengeance.
Ouais.
Bon, sans le vouloir.
Le but du jeu, c'est de se venger quand même. Ted Post, c'est lui qui réalise ce Colombo.
Ah oui.
Avec Ricardo Montalban dans le rôle du mec qui est pas trop net. Hein. En fait, c'est une histoire de torero, hein, qui a fait tuer un mec avec le taureau. Mais rassure-toi, Colombo.
Excusez-moi, monsieur, dame. Ce genre de pièce à conviction, comment on l'amène au tribunal? Prenez le drap rouge, là.
Ouais, c'est ce soir sur TV Braise à partir de 20h50. Sinon, il y a également un téléfilm qui risque d'être très intéressant pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité qui suivent l'actualité de l'autre côté du Channel en Grande-Bretagne. C'est vendredi prochain qu'Arte diffuse un téléfilm qui s'appelle l'affaire David Kelly. Ah, je vois que ça vous dit un petit peu quelque chose.
Attends,
si vous
c'est la fille
aux infos.
C'est la fille qui s'est faite tuer.
Non. Absolument pas. Il faut savoir que pendant la guerre d'Irak, BBC a révélé qu'un dossier sur des armes de destruction massive de Saddam avait été gonflé par le gouvernement.
Pardon, oui, c'est ce mec, cet expert.
Et cette info en fait a été relayée par un expert scientifique, David Kelly, qui s'appelle, qui en fait s'est suicidé 2 mois plus tard.
Surtout qu'il n'avait pas supporté que son nom soit révélé, et c'était dans l'un des shows dans l'un des plus vieux shows de la radio anglaise, qui s'appelle Today, qui est donc sur Radio 4, et je crois que c'est un show qui existe depuis les années 30, donc c'est vous dire quand même le niveau de la BBC. Donc c'est un, c'est produit par qui ça?
Alors quoi?
Je
peux pas te dire, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça a l'air d'être un truc indépendant, c'est franco-anglais. Faut savoir que c'est une coproduction.
Coprod, ok.
Hein, ok. Faut savoir également que pendant ce bordel, quand ça a déclenché ce bordel, ça a été le bras de fer entre la BBC et le gouvernement. Et
La BBC renouvelle tous les 10 ans ce qu'on appelle la charte royale qui garantit l'indépendance et le fait qu'ils touchent des sous. Et là, ça a dramatiquement changé puisque là, le gouvernement a dit ok, mais vous supprimez 4000 emplois.
Ouais, mais enfin, ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a eu la majeure partie des hauts dirigeants de la BBC qui ont démissionné, purement et simplement, qui ont été remplacés, direct. Ça s'est très mal passé quand même. Donc, c'est Peter Kosminski qui réalise ce téléfilm avec Mark Rylance dans le rôle de David Kelly, et également Daniel Ryan. Dans le rôle du journaliste Andrew Gilligan, c'est le journaliste qui avait révélé cette affaire à la BBC, qui avait contribué à ces révélations, et également Emma Fielding. Ça passe donc vendredi prochain à partir de 20h40 sur Arte. Il y a encore de la télé-réalité.
Ah non.
si, c'est sur Canal+ mardi prochain, et télé-réalité et boxe en même temps avec The Contender, un programme complètement importé des États-Unis. Qui a été produit au départ avec Sylvester Stallone, Rocky lui-même.
Je vois ce que c'est ce truc.
Et avec, pour la caution, sportive, quand même, Ray Sugar Leonard, des plus grands boxeurs qui aient jamais existé de ce monde, je peux vous le dire. Il fallait voir ça quand même. Vraiment, c'était Sugar Leonard contre Marvin Hagler. Il fallait voir ça quand même. vraiment très fort, très fort. Et donc le but du jeu, c'est un jeu quand même avec un gagnant à la fin. C'est comme Marjolaine, le millionnaire, c'est pareil. Elle nique tous, mais à la fin, il en reste qu'un. 16 boxeurs au départ qui sont séparés en deux groupes Est et Ouest, et au fur et à mesure on s'élimine. Alors on suit bien entendu leur entraînement, leur vie privée, tout le bordel, comment ça se passe. Alors, ouais merde, j'ai fait une mauvaise séance de sac hier, je me sens pas bien, enfin des trucs comme ça, avec quand même à la clé pour le gagnant, pour les deux gagnants, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent en finale de chaque bloc, la finale sur le ring du César Palace de Las Vegas, là où se disputent généralement les gros champions du monde, dans toutes les catégories, et un petit million de dollars en plus en prime, comme ça, allez, vas-y, dégage, ça ira. Alors, ça a pas trop marché, ça a pas trop marché, ce show au départ aux États-Unis, et il a fallu qu'il y ait un des candidats qui, au bout d'un moment, se fait virer, se suicide, pour que, la pression des médias faisant, le show a commencé à être regardé à partir de ce moment-là. Avec la finale qui a effectivement eu lieu.
Ça, c'est la télé-réalité, ça. Bravo.
Ça, c'est du bon avec la
finale. La télé américaine me surprend.
La finale qui a vraiment eu lieu, donc ça s'est passé en mai dernier, le mois dernier, c'était au César Palace. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qui a gagné. C'est pas mon boulot. C'est donc tous les mardis. Ça va être tous les mardis, donc sur Canal+ à partir de 20h55. Et j'ai encore du ciné. Putain, je peux encore tenir tranquille. Tu vois, je vais te faire la rubrique de Thomas tranquille. j'ai amené le bouquin.
Mais j'avais prévu un programme court, moi.
Ah ouais. Mais attends. Parce que du côté ciné, qui a des couilles. Et si tu veux une soirée bien burnée, il y a pas de problème. Tu mets RTL9 à partir de 20h45. Ça commence avec un bon Peking Pas. C'est pas le meilleur, mais enfin, il est pas mal. C'est Le Convoi. C'est un de ces derniers, de 78, avec Chris Christopherson. Tu sais, le mec qui soigne Wesley Snipes dans Blade.
Oui.
Le barbu, là, le babos, c'est lui. Il y a également Ernest Borgnine. Lui, c'est le chauffeur de taxi dans New York 1997. Voilà, Ali Magro, c'est la nana qui se prend des tartes dans la gueule dans le film avec Steve McQueen, de grosses tartes hein, quand même. Et Burt Young, on s'est suivi en plus de Mad Max 2, alors ça te fait la soirée. Couillu, hein, pas de problème, t'es content. Il est toujours dans le couillu, bah, c'est toujours sur RTL 9 en plus, lundi prochain, la rediffusion. Alors moi je me lasse pas à chaque fois, il faut regarder les 10 premières minutes, hein, c'est-à-dire le générique avec le début. C'est carrément, c'est un monument, je trouve, c'est un monument du cinéma de série B. Action Jackson de 88, de Craig Baxley avec Carl Weathers, ouais, Carl Weathers quand même, Craig T. Nelson. Que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça dans La Déchirure, un très vieux film qui avait vachement marché au début des années 80. Hein, Craig T. Nelson, hein, c'est Washington Police, l'excellente série facho.
Facho, tu trouves
quand même. Faut pas déconner, hein. Faut arrêter un peu là. Faut pas pousser quand même. Il y a Vanity également, hein, qui à l'époque était vachement connu parce que ça avait été l'égérie de Prince dans Purple Rain. Et il y a une nana qui, elle, bah, c'était la moins connue du lot. Mais bah, des années après, on se souvient que d'elle et on la voit toujours, Sharon Stone.
Ah oui.
Et ouais, je crois. En plus, là, je crois qu'elle est brune en plus, il me semble quoi. Elle est même pas blonde, elle est brune dans ce film. C'est pour ça que au départ, t'as du mal à la reconnaître, mais une fois que tu l'as reconnue, c'est bon, ouais, pas de problème. Et à l'époque, elle n'était pas refaite. Hein. Là, c'était du naturel 100% à l'époque. Action Jackson. Donc, mais regardez juste les 10 premières minutes avec générique, avec la musique Action Jackson. Hein, c'est un morceau qui est assez connu en plus maintenant. Ça vaut le coup, c'est vraiment bien, quoi. C'est impeccable. Et il y a encore de la série, enfin c'est plutôt un téléfilm, on va dire, hein, mais tiré d'une série, mais alors que tu connais sur le bout des doigts, hein, parce que bon bah elle a été initiée par un certain Robert Tapert, qui est le grand copain de Sam Raimi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit ouais, on va faire un peu de télé. Qu'est-ce qu'on va faire à la télé? On va faire un truc complètement déchirant qu'on n'a jamais vu. Hercule, la série Hercule avec le beau Kevin Sorbo.
Attends, là, tu veux dire ce truc complètement série Z-esque?
Absolument.
Avec les armes en scotch argenté et tout ça.
Et oui.
Quelle horreur ce truc.
Alors c'est du péplum pur et dur, hein, pur et dur. Là. Mais alors bon, c'est quand même vachement bien foutu. La série est quand même relativement récente, hein, elle date du milieu des
China
années 90.
Je préfère China en comparaison. Hein,
et donc Kevin Sorbo qu'on a vu également dans une série de science-fiction Andromeda, hein, où c'est pas mal, ça pète bien, c'est rigolo. Hein, c'est diffusé sur Série Club vendredi prochain à partir de 20h50. Et là, c'est un téléfilm, donc ça dure 1h30. Et c'est Hercule et les Amazones, avec également la participation de Roma Downey, d'Anthony Quinn. Non. Il était vivant à l'époque et il jouait le rôle de Zeus. C'est lui, Zeus. Et il y a également bah, l'apparition, justement, parce que c'est pour ça que c'est un téléfilm qui est devenu un épisode double, qui est devenu culte, parce qu'il y a l'apparition de Lucy Lawless, justement. Tu me parlais de Xena juste avant. Et après ça, elle est revenue, je crois, deux trois fois dans la série Hercule. Et comme elle s'entendait bien avec Monsieur Robert Tapert, je crois qu'ils sont. Non mais c'est pas des conneries. En plus ils sont mariés maintenant. Hein,
mais cela ne nous regarde pas.
Ah bah si, parce que bon bah ça a quand même influé sur la suite, vu que bah ils ont créé Xena, la série dérivée de Hercule. C'est donc vendredi prochain. À partir de 20h50 sur Série Club. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Là c'est la séquence Ciné Club. Le Ciné Club, alors on se demandait la semaine dernière pourquoi ils avaient passé Génération Proteus et dans le cadre de quel cycle le Ciné Club de France 3 allait de dimanche soir allait pouvoir continuer après Génération Proteus. Moi je me posais vraiment la question. Ils auraient pu enchaîner avec L'Homme qui venait d'ailleurs, mais enfin bon, c'est quand même vachement trop connu. Hein. Bon, va chercher un autre film anglais. qui parle un petit peu du même genre.
Quoique non, L'Homme qui venait d'ailleurs, pourquoi pas après tout.
Ouais, mais enfin bon, c'est un... on connaît, on a déjà donné quoi. Non, mais ça reste un excellent film de toute façon.
Oui, tout à fait.
Demain, eh bien, c'est peut-être le début d'un cycle. Et alors, si c'est un cycle, c'est pas mal, hein, car ça concerne soit elle, le réalisateur du film Journal d'une fille perdue, qui sera diffusé demain soir à 0h20 sur France 3 dans le cadre du Ciné Club. Hein, Georg Wilhelm Pabst. Alors, c'est du muet, bien sûr. Hein, c'est un film de 1929, avec une Louise Brooks en actrice principale qui, à l'époque, avait déjà tourné un film Elle avait déjà tourné un film avec Pabst. Elle avait déjà tourné Loulou, qu'il avait rendu super célèbre.
Ah ouais, c'était énorme,
Là, c'était énorme juste avant. Donc, je vous ferai la filmographie juste après. Et Louise Brooks qui a commencé sa carrière en 1923 comme danseuse, un petit peu déshabillée, on va dire, hein. Pas tout le temps, mais enfin bon, de temps en temps, il fallait mouiller le maillot, on va dire.
Oui, oui, oui.
En 1925, elle commence à intégrer le monde du cinéma, ce qui fait que avant de sa rencontre avec Pabst et le film qui va la révéler, à savoir Loulou, enfin qui va la révéler en tant que scandaleuse, hein, on va dire. À l'époque, faut voir les tenues, hein, disons bon, c'était un peu chaud. On avait déjà vu plus chaud dans les premiers muets de la première partie du siècle, à savoir 1910-1920, hein, il y avait déjà eu plus chaud, honnêtement, ouais. Quoi. Mais bon, il y a eu le Codays qui était passé par là entre temps. Hein.
Ce qui concernait que les États-Unis, théoriquement.
Qui concernait que les États-Unis, mais attention, parce que bon, justement, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Louise Brooks, donc, qui a connu le Gotha du cinéma naissant, hein, de Hollywood naissante. Elle est un petit peu à l'initiative d'une unité d'artistes, la société qui a été créée par Marie Pickford et Charlie Chaplin. Ah. Elle s'est désistée au dernier moment parce que ça la faisait chier. Enfin, elle était d'accord sur le principe. Elle a connu plein de gens dans le cinéma. Elle a tourné avec William Wellman, enfin bon, les plus grands, vous allez voir. Et elle a connu au théâtre un certain Humphrey. Là, je vous propose quand même un petit paragraphe quand même qui vous décrit Humphrey Bogart vu par les yeux de Louise Brooks.
Monsieur, madame, il est 16h17. Sport parle depuis 30 minutes et va largement déborder. Ouais.
Humphrey Bogart a consacré les 21 dernières années de son existence à modifier laborieusement l'image d'un acteur de théâtre nommé Humphrey, conventionnel, bien élevé, entre deux âges. En celle de Bogey, qui rehaussait ses rôles à l'écran, le dur indomptable. Depuis sa mort, en 57, les biographes entretenant le culte de Bogey en ont fait un saint de cinéma, Saint Bogart, dans lequel je ne retrouve pas trace du Humphrey que j'ai connu dès 1924, ou du Bogey que j'ai vu pour la dernière fois en 43. Dans les portraits qu'en dressent ses biographes les plus anciennes, Touche le dépeigne comme un solitaire, un résolu, un homme qui décide seul et sans se soucier des conséquences. Cette description ne s'applique guère à une star de Hollywood au XXe siècle. Étant moi-même une solitaire née, temporairement détournée de la vie d'ermite par une carrière sur les planches et à l'écran, j'affirme catégoriquement qu'à l'époque de Bogart, rien ne ressemblait plus à l'esclavage qu'une carrière de star de cinéma. Il ne décidait seul que sur un point, signer ou non un contrat. Dans l'affirmative, il devenait la proie des co-signateurs et des distributeurs de ses films. S'il ne signait pas, il n'était plus star. Voilà, ça c'est tiré du bouquin Louise Brooks, hein, par Louise Brooks, hein, c'est elle qui écrit, qui a fait cette autobiographie qui est rehaussée par de superbes photos de ses nombreux tournages, c'est un bouquin magnifique, et donc avec une petite filmographie, hein, elle a donc tourné avec Frank Tuttle, The American Venus, c'était en 26. Je vais pas les citer tous parce que bon, il y en a quand même une de taper. Elle a tourné également Rolled Stocking de Richard Rawson avec Richard Arlen. Elle a tourné également The City Gone Wild, La Cité Maudite de James Cruise. Elle a tourné dans A Girl in Every Port de Howard Hawks en 28. Et c'est d'ailleurs dans le rôle qu'elle a dans ce film. C'est avec Victor McLaglen et c'est dans le rôle qu'elle a dans ce film qui l'a fait repérer, hein, et, de George William Pabst, qui la connaissait pas du tout, qui était prêt à engager une autre actrice pour jouer le rôle de Loulou. Il avait même pensé à Marlène Dietrich, mais Marlène Dietrich,
elle voulait pas bouger d'Allemagne.
Non, Marlène Dietrich, elle serait venue à genoux pour jouer le rôle, hein, mais seulement bon, Pabst il disait ouais, le problème c'est que bon, Marlène Dietrich, si jamais elle commence à avoir un sourire ou un petit rictus sexy dans le film, elle fout tout par terre. C'est pour ça qu'il en voulait pas. Et
non, c'est dommage ça.
Et donc elle a fait plusieurs films. Elle a joué avec William Powell, Gene Arthur, hein, dans le Murder Case Canary, avec Pabst. Donc elle a fait la boîte de Pandore, c'est le premier qu'elle a fait. Hein, ensuite, elle a fait également le journal du fil perdu. Elle a fait Loulou, bien entendu. Et son dernier, c'est en 38. Hein, alors que bon, elle est morte quand même vachement tard. Hein, elle est morte dans les années 70, me semble-t-il. Le dernier, elle l'a fait en 38 avec George Sherman, Overland Stage Raiders, avec un certain John Wayne, qui n'était pas encore trop connu à l'époque.
Ah ouais.
Tu vois, c'est un petit peu de la carrière, ça, on va dire, quoi. Tranquille.
Non. Pas sur la gauche, sur la droite, au bouquin. Hop.
Non, non, je peux pas te le donner celui-là, je peux pas te le prêter. Désolé.
Ah, dommage. En tout cas,
on va s'arranger.
Non. ça va, je déconne. Du sport, t'as terminé là, je suppose. Oh, t'as terminé. Fallait le dire hein, quand même. Allez, hop, zou. Voilà, donc c'était Supplément Week-end du samedi 18 juin 2005 sur Radio FMR. Et ben, quelle est la suite des programmes ? Du sport va prendre l'antenne d'ici quelques instants. Il va se mettre de l'autre côté. Je te mets ton générique habituel là ou tu vas enchaîner direct ? Bon, allez, hop, c'est toi qui décides. Tu le mets ou tu le mets pas. Sachez qu'à 15h, il y aura de la jungle avec Peyo qui va mixer. De la jungle, ça tombe bien, aujourd'hui il fait très chaud. Hein. Ils annoncent, je crois, dans les 35 degrés. Donc on va y aller sec à 18h30. Clark Nova n'aura pas lieu. À la place, il y aura une émission politique de droite. Question de respect de la parité. C'est vrai que ces émissions qui sont... Ces corpuscules, que vais-je dire, ces espèces de sectes qui sont à gauche de la gauche sont à la pensée carrément fascisante, n'ont pas forcément leur place sur Radio FMR, donc un peu de droiture, s'il vous plaît, messieurs. À 20h, la Stétéro Expérience avec de la musique bien délirante. 21h30, Liquid Sky, c'est de l'électro. Là aussi, c'est les copains que je salue, aussi bien Fabrice que DJ Hallucination. À 23h, Breakbeat Expérience, à nouveau de la jungle, voilà. On se donne rendez-vous samedi prochain à partir de midi avec Thomas qui sera de retour du sport, donc il va prendre la suite. Voilà. Et moi, hop, je débranche mon casque. Et à partir de là, si vous profitez bien de cette chaude et chaleureuse journée sur l'écoute de Radio FMR jusqu'à 5h du matin. Ciao !